quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
On vous reproche parfois d'être à vif ou à cran, ou bien d'être tout simplement caractériel, prise de tête. Alors vous avez la larme facile, mais vos silences et vos difficultés à communiquer vos sentiments sont un véritable handicap dans votre vie quotidienne et dans vos rapports avec vos proches. Alors oui, il se peut que vous soyez hypersensible. Comment faire tout simplement de l'hypersensibilité un atout, que l'on soit enfant, en couple ou au travail? Eh bien, question que je poserai à mes quatre invités dans cette émission en quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Et j'ai la grande joie d'accueillir pour commencer Charlotte Wills. Bonjour Charlotte, bienvenue.
Merci, bonjour Marie-Ange.
Vous qui êtes coach certifié, spécialisé dans l'accompagnement des personnes justement hypersensibles, vous avez publié cet ouvrage « Hypersensible en situation de harcèlement ». C'est un angle particulier qui est abordé dans ce livre, mais vous avez bien évidemment étudié la question de l'hypersensibilité, ne serait-ce qu'avec votre fils, hein, n'est-ce pas, hein, qui fut harcelé, peut-être en raison, on va voir si c'est un lien de cause à effet entre les deux, entre le harcèlement et l'hypersensibilité, je ne sais pas, c'est vous qui allez nous le dire, hein,
ouais.
Aux éditions Le Duc. Nous ouais. sommes également en compagnie de Christelle Béchouche. Bonjour Christelle,
bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Qui nous venez tout droit du Sud-Ouest, auteur et scénariste que vous êtes. Vous êtes maman 10 et mère de 3 enfants atypiques. Vous avez écrit un livre pour partager justement votre expérience, incarner ce que l'on est réellement, c'est aller vers une société plus inclusive. Vous avez donc travaillé aussi sur cette question des 10. Il y a effectivement un rapprochement que l'on peut faire entre les 10 et puis les il y a une part d'hypersensibilité chez les 10 en général ou pas?
Oui, alors moi maintenant je ne mets plus dans les 10, les TDAH, les HPI.
Ça c'était avant?
Ouais. Pour moi c'est de la neurodiversité.
D'accord.
Principalement, et c'est une façon de fonctionner intellectuellement et émotionnellement qui est justement je ne vais pas dire hors du cadre, mais en tout cas celui dans lequel on veut nous intégrer dès l'école, en fait.
Oui, dans la norme, la fameuse norme,
exactement.
Nous fait de plus en plus horreur.
Et voilà.
Nous sommes également en compagnie de Christiane Behagel. Bonjour Christiane.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir. Vous êtes notre love coach du jour, si je puis dire, sur la planète amoureuse pas simple d'être hypersensible. Vous qui êtes conseillère conjugale, intervenante au clair que nous connaissons bien sur cette antenne de Radio Notre-Dame en tout cas. C'est pas simple, mais c'est de plus en plus courant. La première question que j'allais vous poser à chacune, je la poserai également tout à l'heure à Géraldine Prévost-Gigant, qui sera en ligne avec nous dans quelques instants. On a l'impression qu'on en parle tout le temps, de cette hypersensibilité. Des ouvrages sont écrits chaque année, pleuvent effectivement, remplissent les rayons développement personnel et bien-être de nos librairies. On se demande s'il y en a de plus en plus ou si on en parle de plus en plus. Charlotte, c'est vrai, l'hypersensibilité, vous qui avez écrit justement un livre sur ce sujet-là.
Oui.
Une question qu'on se pose quand même. Hein. On le voit quand même partout, ce terme. Hypersensibilité, ce terme.
Oui, cette notion. Cette notion qui n'est pas nouvelle parce que ça a toujours existé, mais dont on parle de plus en plus. Et pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus? C'est aussi parce que la société est à même aujourd'hui de beaucoup plus les accueillir.
Ouais.
Hein, ça a toujours existé, que ce soit les peintres, les auteurs, etc. Ça, on voit que ça a toujours existé, mais aujourd'hui, la société est plus à même de les accueillir et donc, d'une certaine manière, de les intégrer.
Et sauf que c'est plutôt négatif aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'on a proposé ce sujet, mais vous allez nous le dire, mais c'est vrai qu'en général, le pauvre, il ou elle est hypersensible, c'est pas facile. Hein. Alors qu'autrefois, effectivement, on voyait ça sous l'angle de la capacité, enfin une sorte de câblage pour la sensibilité, c'est extraordinaire pour pouvoir peindre, pour pouvoir créer, etc. Quand on est artiste, il y a quelque chose de cet ordre-là peut-être.
Je pense que la difficulté a été toujours pour la personne qui a cette hypersensibilité. Peut-être moins pour les autres, encore que, on va voir. Et je voudrais rapprocher le sujet d'une citation de Gustave Flaubert, donc vous voyez, c'est pas nouveau, qui disait « Je suis douée d'une sensibilité absurde ». Et vous voyez déjà, je trouve qu'il pose
sensibilité
bien le problème.
Absurde.
Je suis douée. Donc douée, vous vous dites chouette, c'est bien, j'ai un don, quoi, c'est formidable. Et puis après, d'une sensibilité absurde. Et c'est absurde pour qui? Mais d'abord pour lui.
Ouais.
Et il développe en disant, ce qui érafle les autres me déchire. Donc, il y a un malaise quelque part. Mais pour moi, ce malaise, c'est d'abord la personne qui a cette hypersensibilité.
Alors, effectivement, nous allons donner la parole à Géraldine. Bonjour Géraldine, qui est en ligne avec nous, Prévost-Gigon.
Bonjour, bonjour Marie-Ange.
Toujours un bonheur de vous entendre, même si on vous regrette, évidemment, physiquement.
Moi aussi.
Géraldine Prévost-Gigon, je le rappelle, qui est psychomotricienne, spécialiste de l'amour.
Praticienne.
Ah, j'ai dit quoi ? Motricienne, pardon. Alors, décidément. J'ai hâte que les vacances... Voilà, on a hâte de voir ces vacances arriver, hein, décidément. Bref, effectivement... psychopatricienne que vous êtes. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Alors, on peut peut-être mentionner, Géraldine, celui en lien avec notre émission du jour, Le pouvoir des hypersensibles spirituels. Votre cœur peut changer le monde chez le Duc, puisqu'il s'agit, là, pour le coup, d'une première, peut-on dire, une première vertu, finalement, pour répondre à la problématique et à l'hypersensibilité dont on peut se plaindre de prime abord, Géraldine.
J'ai entendu, Marie-Ange, avec grand bonheur que vous fassiez le lien entre hypersensibilité et élan créateur, créativité.
Oui.
Ça me touche beaucoup parce qu'on en parle finalement peu aujourd'hui.
Aujourd'hui, en tout cas.
Aujourd'hui, quand on aborde l'hypersensibilité. Et je trouve que c'est important de regarder également l'hypersensibilité sous cet angle. Cette sensibilité qu'ont les êtres à être touchés par le monde et à pouvoir prendre cette émotion qui les meut et les rendre, d'en créer des objets d'art, des créations, des mouvements, des élans, bref, de faire de leur hypersensibilité quelque chose sur Terre et en la société. Ça, c'est quand... on trouve en fait notre voie d'expression et de canalisation de notre intensité. L'intensité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important finalement, parce que c'est comme ça que les hypersensibles vivent les choses, la vie, l'existence. Cette intensité de tout, en fait. Beaucoup de pensées, une cogitation permanente, des émotions qui traversent, des sens aussi qui sont, des perceptions sensorielles qui sont démultipliées pour les uns, un sens, pour les autres, plusieurs sens. Donc c'est vraiment essentiel de comprendre qu'en fait, c'est un rapport au monde avec intensité, c'est un rapport aux autres avec intensité. Et lorsque cette intensité, ce rapport au monde n'est pas compris par le sujet lui-même, n'est pas accueilli par le sujet lui-même, quand cette personne va tenter d'être comme les autres, c'est là que ça va être quelque chose qui va faire souffrir.
Ouais.
À partir du moment où on comprend que c'est une différence et pas une différence qui peut nous mettre en difficulté, une différence que l'on va accueillir, regarder, découvrir, comprendre, à ce moment-là, notre hypersensibilité peut devenir une force, peut devenir un élan vital, une vague sur laquelle on va surfer.
Christelle Béchouche, comment ces paroles résonnent finalement
Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'intensité, la créativité, bien sûr, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est le principe même de l'hypersensibilité, d'aller au cœur de sa créativité, de sa...
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une maman, vous êtes une femme hypersensible, et vos enfants aussi? Pour résumer,
nous on est une famille
hypersensible.
On est une famille de gens tout à fait normaux, j'ai presque envie de dire pour le coup, parce que c'est le principe même de la vie d'être hypersensible.
Vous vivez les choses de façon très intense, comme le dit Géraldine.
Oui, il y a une intensité. Alors après, ce qui est quand même, je trouve, très important, c'est aussi la modulation sensorielle, de faire quand même, de toujours vérifier si l'intégration sensorielle est bien intégrée.
C'est-à-dire ?
Parce qu'il y a vraiment des troubles aussi d'intégration sensorielle qui existent. Et tout n'est pas non plus inné. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui se... On ne peut ne pas avoir d'automatisme dans certains sens. Et c'est toujours très intéressant de faire un bilan ou un test, justement, de l'intégration sensorielle. Parce que tout n'est pas... on est hypersensible, mais on est aussi une... Comment dirais-je, c'est compliqué de l'expliquer, mais voilà, il y a aussi un équilibre.
D'accord.
à trouver pour cette hypersensibilité.
On imagine, on est d'ailleurs là toutes ensemble pour essayer d'aider, d'accompagner les par exemple, les parents qui nous écoutent, parce que alors c'est presque plus facile, en pensant à vous, Charlotte, Christelle, pardon, d'accompagner des enfants qui sont hypersensibles quand on les soi-même, mais quand on ne l'est pas, c'est pas forcément évident de les comprendre, de rentrer dans leur monde d'hypersensibilité.
Parce que...
Peut-être, est-ce pour ça que vous avez écrit ce livre, d'ailleurs, le manuel de survie, que je n'ai pas encore...
De l'adulte, alors j'ai écrit là récemment le cahier pratique de l'adulte atypique, donc comment hyper-exister dans une société trop normée. Et les deux premiers, c'était pour l'adulte atypique, et j'ai fait toutes les lois qui pouvaient exister pour réussir son intégration dans le monde du travail. Et pour l'enfant, donc pour réussir son intégration dans le monde de la
à l'école, etc. Et justement, alors pourquoi cette maman a fait appel à vous, Charlotte, dans ce livre Hypersensible en situation de harcèlement, c'est que les hypersensibles, par exemple, sont plus sujets à ce type, malheureusement, de fléau. Enfin, on parle d'un fléau aujourd'hui parce qu'il y en a de plus, on en parle de plus en plus avec les réseaux sociaux, etc. Mais c'est une proie facile, hypersensible, idéale.
Oui,
du harcèlement.
Oui, tout à fait.
Et pourquoi ? Expliquez-nous.
Parce que déjà, en fait, l'enfant hypersensible, ben, très souvent, il n'est pas forcément accompagné dès le plus jeune âge, mais il a cette sensibilité et donc cette hyper-empathie. Donc, du coup, Une hyper-empathie, ça veut dire qu'il y a deux formes d'empathie. L'hyper-empathie sensorielle.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire qu'il va sentir, ressentir ce que sent l'autre. Et l'hyper-empathie aussi cognitive, ça veut dire qu'il va comprendre ce que l'autre pense, ce que l'autre imagine, ce que l'autre perçoit de lui. Et du coup, dans cet ouvrage, effectivement, j'explique que l'enfant hypersensible va non seulement, face à son agresseur, face à ses agresseurs, non seulement il va sentir ce que les autres ressentent, et il va presque se culpabiliser d'être tel qu'il est, de ressentir ce que les autres ressentent, mais aussi il va savoir prendre leur manière de penser. Il va se culpabiliser pratiquement d'être tel qu'il est.
D'où la déchirure peut-être ressentie, décrite par Flaubert, Christiane.
Peut-être,
c'est
oui.
Beau, sauf que c'est très poétique, raconté par Flaubert, n'est-ce pas ?
C'est le harcèlement, qui vraiment est un fléau, comme vous le dites, s'appuie d'abord sur la différence. Et je pense que c'est un angle sur lequel on peut travailler. L'hypersensible est quand même assez différent, avec tous les avantages qui viennent d'être décrits, parce qu'il sent les choses avant, il a cette créativité, mais les autres derrière, qui n'ont pas pu le développer, peut-être, et on pourrait le voir sous la forme d'un retard des autres, et l'hypersensible serait en avant.
Ouais.
N'empêche qu'il y a une différence. Et cette différence qui, chez les enfants, peut être accumulée, ce phénomène de harcèlement. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de préparer les enfants hypersensibles pour leur donner en même temps que les valoriser, parce que leur dire que cette hypersensibilité est belle et qu'ils vont pouvoir en faire quelque chose de formidable, leur redire la confiance qu'ils doivent travailler. Parce que là, ce qui dit sensibilité dit émotion.
Ouais.
Et vous ne pouvez pas dans la vie réagir que par vos émotions. C'est beau les émotions, mais il faut que ça soit accompagné derrière de quelque chose de plus construit. Et l'hypersensible fait peut-être, en tout cas on le voit comme ça, fait appel à son émotion. Donc derrière, il faut lui donner cette confiance, de lui dire « tu as senti les choses avant les autres, maintenant il faut les construire
». Vous
voyez un petit peu ce que...
Ouais. Est-ce que vous partagez cela, mesdames, chers?
Oui, moi j'entends la perception en fait, parce que c'est toujours une question de perception, c'est-à-dire que ce que... On est toujours en lien avec ce qui nous entoure, je parle en tant qu'hypersensible, avec une perception différente, atypique ou pas, hein, par rapport, tout dépend, on perçoit tous le monde qui nous entoure de manière différente. Et c'est vrai qu'incarner cette différence, en tout cas cette hypersensibilité, elle part toujours de son propre point de vue. Donc ça part, il me semble, par effectivement la connaissance de soi, avant tout, parce que sans se connaître, on ne peut pas justement appréhender le monde qui nous entoure. Parce que c'est une question on doit apprivoiser quelque chose qui nous appartient et qui nous permet de voir le monde autrement, justement.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'ère, justement, des décodages multiples et variés, et c'est peut-être... Alors, parfois, ça nous rend fragiles, parce qu'on se pose parfois trop de questions, en tout cas, en tant que parents, bien souvent, mais pas seulement. Mais l'avantage, c'est que ça peut permettre, peut-être, hein, je vous pose la question, mesdames, Géraldine, de transmettre à nos enfants, enfin, en tout cas, d'accompagner nos enfants dès le départ, justement, vers un bon usage de l'hypersensibilité, point d'interrogation, Géraldine.
Moi, c'est ce que j'ai reçu. Je peux témoigner en tant qu'hypersensible et aussi hypersensible spirituel, puisque c'est mon sujet.
Oui.
Je peux vraiment témoigner en tant qu'enfant hypersensible qui a grandi dans un milieu artistique et auprès de parents hypersensibles et qui ont fait de leur hypersensibilité un support d'expression artistique, un moteur, vraiment, voilà. Et donc, j'ai, dans mon environnement familial, pu déployer toute ma sensibilité, toute ma différence, mon atypie, et vraiment, j'étais très à l'aise dans cet environnement. C'est ensuite que j'ai dû apprendre l'adaptation, voire la suradaptation parfois, ouais, dans une société qui, voilà, avec des êtres n'ayant, disons, pas la même sensibilité que moi.
Ouais.
Et ça a été tout un parcours. Donc, en effet, l'accueil des parents, ce que les parents vont dire aux enfants concernant leur sensibilité, va être déterminant. Le regard qu'on va apprendre à porter sur notre hypersensibilité, ça va être déterminant pour la suite. Alors, bien entendu, on peut changer plein de choses, hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut à tout prix, mais disons que ça va nous permettre de gagner du temps.
Ouais.
Et si le parent est à l'aise, parce que c'est ça aussi qui se joue, c'est-à-dire est-ce que nous, en tant que parents, on est à l'aise avec notre sensibilité, notre hypersensibilité, notre atypie? Si oui, eh bien on va pouvoir, de par notre comportement et notre discours, ce que l'on va partager avec l'enfant, on va pouvoir transmettre tous les aspects positifs de notre hypersensibilité. Et je souligne aussi une chose, hein, c'est qu'il y a beaucoup de clichés qui tournent autour de l'hyper-émotivité, de l'hypersensible. C'est important de souligner qu'il y a aussi des hypersensibles dont l'hyper-émotivité, certes, n'est pas exprimé. Parce que souvent, on a l'idée que l'hypersensible a des explosions émotionnelles, mais il y a aussi des personnes qui vivent intensément leurs émotions vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes, et ça n'est pas visible. Et l'hypersensibilité n'est pas seulement aussi une hyper-émotivité. On l'a vu par rapport à l'hypercognition, à un rapport au monde.
Effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure Charlotte. C'est écrit en tout cas dans votre livre Noir sur Blanc, Charlotte. L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, dites-vous. Ce qui affaiblit les hypersensibles, c'est de ne pas se défendre et de se laisser faire. Ça fait partie aussi de l'espèce d'introversion, peut-être, à surveiller, en tout cas, chez les enfants. Et puis même quand on grandit, pour retrouver un équilibre entre une juste expression de ses sentiments, ne pas être inhibé. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant.
Exactement.
Merci Géraldine. Si vous permettez, Géraldine, nous allons nous séparer musicalement. Tout est fragile. La preuve. L'autre jour. À tout de suite, mes amis.
En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Ville défaite aux matins indécents qui dévoile ses rues à des étoiles tombées. L'espasme de la nuit émeuve quelques ombres tardives. Tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. La ville remet ses cheveux pour la noce quotidienne du ciel avec le bleu. Tout est fragile, dangereux.
Giuro biedo, la mamma calma già di giuro biedo, a saltati, fa mañana, fa mañana.
Mm-hmm.
d'après minuit, à la peau comme des sucreries d'Orient, on fait danser contre leurs fesses des amants étourdis. Coule la vie, coule l'insouciance, nos métamorphoses. Leur parfum de princesse enivre quelques cœurs fêlés. Sa versant lunaire à mille instants de sucre, mille instants de sel. Passe le vent, passe l'imprudence, nos bouleversements. La nuit émeuve quelques ombres tardives. Tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. Les humains passent dans les rues engourdis. Des arabesques au satin de la peur. À Madame Carnaval, à son instant de grâce. Important, fugitif, tout est éternel.
Voilà, il faut se taire, c'est la nuit. Mais bien sûr que non, même s'il fait nuit à 17h. Et oui, chers amis, comment faire de l'hypersensibilité un atout? Il ne suffira pas de 52 minutes pour arriver à répondre à cette question de façon exhaustive. Vous vous en doutez bien, heureusement qu'il y a de nombreux outils, on en parlait hors antenne hein, avec mes invités. Charlotte Wills est ici, coach certifiée spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Elle a publié cet ouvrage « Hypersensible à situation de harcèlement » précisément chez Le Duc. Géraldine Prévost-Jégan en ligne avec nous, qui s'est intéressée, qui est une hypersensible, qui n'a pas peur de l'assumer, elle a bien raison. Psychopraticienne qu'elle est, spécialiste de l'amour sous toutes ses formes, de la dépendance affective et qui a écrit de nombreux ouvrages. On peut quand même mentionner 50 exercices pour se libérer des relations toxiques fraîchement sorties chez Erol, chère Géraldine Prévost-Jégan. Mais vous avez également publié un ouvrage récemment également sur le pouvoir des hypersensibles spirituels. Chez Le Duc, votre cœur peut changer le monde. Ça fait du bien de lire ce titre. Christelle Béchouche, auteure et scénariste, qui est vous-même également hypersensible, qui avait toute une famille petits hypersensibles. Peut-être ont-ils grandi. Votre cahier pratique de l'adulte atypique est à découvrir aux éditions du Courrier du Livre. Et enfin, Christiane Béhagel, qui est conseillère conjugale et qui est intervenante au Clair auprès des enfants et des jeunes notamment. Christiane, vous souhaitiez justement en profiter pour proposer, pour partager cet atelier que vous organisez pour apprendre aux parents à écouter davantage leurs enfants et donc être plus sensibles à l'hypersensibilité éventuelle de leurs enfants.
Exactement. Et ça s'appelle Aime la vie. C'est un atelier du Clair qui est proposé aux personnes, enfin parents, père ou mère, oui, avec des enfants de l'âge de CM2, 6e, si vous voulez, au moment où il y a un début de sortie de l'enfance et qu'on aborde les grandes classes, ça peut être le moment de dire à son enfant, ne t'inquiète pas, la vie est belle, et si tu as des soucis, on est avec toi. Ouais. En fait, c'est aussi bête que ça. C'est vraiment de leur... De passer 3 heures à faire des jeux, ouais, des jeux qui sont orientés vers des risques de harcèlement, des risques de peur, Mais on le fait pas du tout en augmentant l'anxiété des personnes, mais au contraire, tout simplement, en partant de petites situations. Ouais. Est-ce que tu as peur des araignées? Est-ce que tu as peur des mauvaises notes? Est-ce que tu as peur d'arriver en retard à l'école?
Ça, c'est de la sensibilité, déjà.
Et oui, mais bien sûr. Et derrière, on dit aux parents, et au même âge, vous, est-ce que vous aviez des peurs? Et quand vous voyez quelquefois les parents qui jouent le jeu à fond et qui disent à leur enfant... Oh ben oui, moi aussi j'avais peur d'avoir des mauvaises notes. Mais les enfants, vous verriez une banane, comme on dit, ils sont tellement heureux de s'apercevoir que leurs parents, au fond, sont passés par des situations.
C'est déjà une clé, quoi, ce que vous êtes en train de dire, Christiane. Merci. Hein. J'avais envie de vous demander, mesdames, quels sont les premiers symptômes, avant d'être vivre l'exclusion. On peut juste le mentionner. Quand même.
Moi, pas de problème.
C'est
mon parcours, donc il y a pas de problème.
Quels sont les premiers symptômes? C'est le fait d'avoir des notes qui descendent tout à coup, ça
par
peut
rapport
être quoi,
à l'exclusion, l'hypersensibilité.
Voilà, qui a causé votre exclusion du système scolaire en cinquième.
Ouais. Voilà, moi j'ai été exclue effectivement du système scolaire en cinquième parce que justement j'avais un fonctionnement atypique. Bon, déjà j'étais dysgraphique, donc je ne pouvais pas suivre...
Dysgraphique, ça veut dire qu'on peut...
C'est-à-dire que je ne peux pas suivre le rythme de production. D'accord. À l'écriture. Je suis très lente à l'écriture, donc en fait il y a un moment je ne peux plus suivre le cours et donc je perds pied. Et enfin, en tout cas, c'était le cas pour...
Ça pénalise, forcément. Ouais.
Ah ben, vous ne pouvez plus travailler.
Et donc, vous avez été carrément exclue.
À l'époque, oui, dans les années 80, les enfants atypiques, on les mettait dans des classes que j'appelle les classes dépotoirs, c'est-à-dire moi, à l'époque, c'était le CPPN, et mes parents, justement, ont refusé que j'aille en CPPN, donc ils m'ont mise à l'étranger. D'accord. Mais à l'étranger, bon, j'étais toujours dysgraphique, donc voilà, qui dit exclusion scolaire, dit exclusion sociale, enfin familiale, sociale.
Alors, bonjour, la confiance en vous, hein. À ce moment-là.
Ça détruit tout, voilà. Et puis en plus, on était dans une époque où on était automatisé. Il fallait rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans le moule. Et c'est vrai que cet automatisme n'existe pas, puisqu'on est vivant. Et donc les émotions hyper existent.
Vos parents ont fait le bon choix ou pas?
Il n'y a pas, comme dit souvent ma mère, il n'y a pas de training pour être parent. Donc en fait, on s'adapte à une époque. Et, et même si nous-mêmes, je le vois moi aujourd'hui en tant que parent avec mes trois enfants, même si aujourd'hui nous on veut proposer des solutions, en face on n'a pas forcément une école qui nous entende parce que l'école est toujours formatée.
Parce qu'on parle de... Non, on parlera de Montessori une autre fois, mais bon, c'est ce genre d'approche.
Oui, mais on rentre aussi dans un système dans Montessori. Voilà, il y a toujours... On nous propose toujours un système, on nous demande toujours de rentrer dans ce système.
C'est compliqué.
C'est hyper compliqué.
Dans ce système si normé, Charlotte Wills... qu'évoque, c'est vrai que les symptômes, on a envie de savoir pour éviter à nos enfants de sombrer, quoi, dans la chute de l'estime d'eux-mêmes, au fond, pour commencer. C'est dur d'apprendre que, on se sent exclu, pas forcément harcelé, mais en tout cas exclu, quoi, parce que ça suit pas. Parce qu'on est tellement dans son monde, peut-être, cette sensibilité qui nous possède, quoi.
Ouais. D'abord, pour revenir vraiment au thème, j'y reviens vraiment, c'est que l'hypersensibilité, c'est déjà un atout. Et on n'a pas besoin d'en faire un atout parce que c'est déjà un atout. Et que c'est très important, c'est tout ce qui fait que finalement on en perd la visibilité de l'atout.
J'ai du mal, voyez moi-même. Hein.
On est
Mais non, mais c'est de la preuve, c'est que l'émission est quand même très négative depuis le début. Là.
Heureusement
que Géraldine et vous êtes là. Hein, parce que...
Oui, et c'est déjà un atout, la sensibilité à la naissance, déjà, c'est déjà un atout parce que.
Mais c'est une souffrance en fait, non? Dans ma tête, moi, c'est souffrance, hein, voyez.
Non. Parce qu'il y a
déchirement, comme disait Christian.
Il y a une lutte pour essayer de rentrer dans un cadre.
D'accord.
Et donc, c'est d'arrêter de lutter. Le courant existe, se battre n'est qu'une solution. C'est parfois d'aller dans le sens du courant. Vous savez, moi j'aime beaucoup dire que l'hypersensibilité, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que oui, effectivement, d'un côté, on va être sensibilisé par la lumière, on va être sensibilisé par le bruit, la circulation, les voitures, on va être sensibilisé par... certaines matières, la laine, ces choses-là. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui va faire que vous allez voir la dissonance chez les personnes. Vous allez voir quand quelqu'un n'est pas aligné. Vous allez voir...
Ça, c'est un atout.
Oui, ça, c'est un atout. D'un autre côté, vous allez entendre quand quelqu'un parle faux. Vous allez entendre quand quelqu'un... Il y a cette fameuse dissonance chez la personne. Vous allez entendre. Et vous allez aussi d'une certaine manière aussi ressentir la beauté d'un coucher de soleil ou la beauté d'une scène, d'un bouquet de fleurs. Donc c'est les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas se départir de l'un sans se départir de l'autre. C'est une juste conjonction. Donc, effectivement, les exercices de Christiane sont assez intéressants parce que c'est une forme de désensibilisation aussi, voilà, cette technique. Mais d'une certaine manière, pour répondre à votre question initiale, c'est la communication entre le parent et l'enfant. Et c'est de faire corps, vraiment, avec l'enfant. De faire corps pour l'accompagner dans cette sensibilité et de toujours lui rappeler que c'est OK, c'est OK. C'est OK ce qu'il ressent. OK, tes copains, ça va pas, il y a quelque chose. Vas-y, ne fuis pas, affronte,
ça, c'est
confronte.
La tentation.
Comment te défendre et de ne pas fuir parce qu'en fait, ce que tu fuis poursuit. Ça va se reproduire ailleurs. En fait, on peut, vous parliez de Montessori, mais aller ailleurs, se créer des environnements spécifiques, ça va vous revenir dans l'environnement professionnel. Dans une entreprise, avec un conjoint, un groupe d'amis, ça va se reproduire.
C'est l'éternel retour, quoi.
La fuite n'est pas une solution. Hein. Neil Donald Walsh disait ça. Hein. Celui qui a écrit une œuvre magnifique, Conversation avec Dieu, écrit ça et lui, il dit ce que tu fuis te poursuit.
Et pour affronter ça, Géraldine, êtes-vous d'accord ? Partagez-vous ce biais-là ? À la fois, c'est positif, mais à la fois, il faut quand même travailler
Absolument.
Un petit peu.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Charlotte partage et nous transmet, très sensorielle d'ailleurs. Et j'étais très, très à l'écoute. Et en même temps, j'étais en train de penser, j'avais envie de faire un pas de côté et de nous inviter à regarder aussi différemment. C'est-à-dire qu'en effet, vous l'avez souligné, Marie-Ange, on a parlé des aspects négatifs. Là, Charlotte souligne les aspects plus lumineux et indéniablement présent, mais on oublie de parler d'une société qui est complètement hyposensible. J'y pensais quand Charlotte mentionnait les bruits de la rue, la luminosité, le bruit des voitures, le capharnaüm des villes finalement, et je pensais aussi au harcèlement avec les personnes agressives, avec les hypersensibles, les gens différents, et je me disais, moi, ce que j'ai envie de dire vraiment là, et le message que j'ai toujours envie de faire passer, c'est pour ça que j'ai écrit les hypersensibles spirituels, c'est que j'avais envie de dire aux hypersensibles et aux autres, et si c'était la société qui avait à un moment donné loupé le coche, n'avait pas compris qu'en fait, vous êtes l'incarnation même de l'humanité, d'une humanité, d'une sensibilité humaine. Et si notre modernité ne mettait pas en fait en lumière une hypersensibilité qui devrait être la norme, devrait être quelque chose qui est de là d'où nous partons, parce qu'en fait, toute cette sensorialité, cette émotivité, cette créativité, ces fonctionnements différents, et si c'était ce qui fait en fait vraiment l'humain, et qu'en fait toute notre difficulté, c'est qu'en effet on nous oblige à rentrer dans des cases, des normes, et pourquoi pas accueillir les hypersensibles avec leurs différences et créer un monde qui soit doux pour eux. Et je pense que ce serait bon pour tout le monde, pas seulement pour les hypersensibles, parce que finalement, à force, on va finir par stigmatiser les hypersensibles. Je sais qu'ici, c'est ce qu'on ne veut pas, justement. On veut, au contraire, mettre de la lumière.
Mais, comme dirait l'autre, il faut bien bouffer. Alors, je me fais l'avocat du diable. Il faut bien bouffer, Géraldine. Alors, dans les entreprises, dans le monde, dans la ville, dans les rues, dans les amitiés, dans les salons, dans les, je sais pas, dans les cours d'école, etc. Faut-il faire semblant, alors, d'être comme les autres
hein? Non, surtout pas.
Non
eh ben, enfin, moi, je me permets de le dire. C'est au contraire, il faut être soi-même. C'est le but. Enfin, c'est pour moi le principe même de notre travail sur Terre. J'ai envie de dire, c'est d'atteindre cette complétude qui nous appartient.
Eh bien, suite de cet échange, si vous le permettez. Après, Fragile, signé Sting cette fois. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Thank you.
flow, pleasure steal our one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, and nothing ever could. For all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are.
Voilà, de retour sur un air un poil psychédélique sur Radio Notre-Dame et RCF. Sting, comment faire de l'hypersensibilité un atout, j'allais dire faire face. Vous voyez, décidément, hein, c'est indécrottable chez moi. Comment faire de l'hypersensibilité un atout? Eh bien, des solutions, des clés en tout cas, de lecture, de compréhension par mes quatre invités qui sont Charlotte Wills, Géraldine Prévost-Gigan, Christelle Béchouche et Christiane Biagel. Et effectivement, on voit souvent ce sujet fleurir sur les réseaux sociaux, notamment. Christian, je m'adresse à vous parce que Géraldine pourra également donner son avis, vous deux qui êtes des spécialistes du couple et de l'amour en général. Vous savez, quand l'un des deux, alors je ne sais pas si qui se ressemble, ça sent dans l'hypersensibilité, mais très souvent on parle, vous savez, de l'un ou l'autre des conjoints qui restent sur la colère pendant voilà 4 jours, sur le sentiment de se sentir trahi, mais de façon complètement l'émotion est exacerbée pendant des jours alors que normalement elle devrait durer que je sais pas combien d'heures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout est quand c'est quelque chose, mais c'est pas forcément
pour moi, c'est pas aussi caractéristique que ça de l'hypersensibilité. Des gens qui remuglent, qui sont rancuniers, qui n'arrivent pas à sortir de leurs problèmes.
C'est pas l'hypersensibilité, ça.
Ben, ça peut être tout simplement que ils sont orgueilleux, qu'ils veulent pas reconnaître leur faute, et ça, à mon avis, on va retrouver 100% des gens plus ou moins exacerbés.
Bon, bah, vous rassurez là quand même.
On a tous un petit peu cette tendance parfois. Non, par contre, vous avez raison de souligner que l'hypersensible dans le couple, mais là aussi, on va retrouver les avantages et les inconvénients qu'on a décrits chez l'enfant. C'est-à-dire que l'hypersensible, il va sentir monter la pression. Peut-être que l'hypersensible va entraîner son couple parce que il va sentir les besoins, il va peut-être sentir à quel point il y a des choses qui sont pas satisfaisantes. Et donc, peut-être que pour l'autre, c'est un petit peu difficile d'avoir quelqu'un qui passe son temps à dire « on pourrait faire mieux ». Voilà, c'est un exemple, si vous voulez. Mais d'une certaine manière, moi, je ferai le lien avec ce qui avait été dit tout à l'heure avant la coupure musicale. Je pense que l'hypersensible, il est en avant. Et c'est extrêmement positif dans une société, dans une famille, d'avoir quelqu'un qui précède les autres.
Ouais.
Et ce précède, moi, ça fait écho à la période de l'avant qu'on vit actuellement. Donc, en définitive, l'hypersensible est peut-être un poil prophète. Mais regardez les prophètes. C'est pas souvent qu'il leur arrive des choses agréables.
C'est vrai.
Donc, le prophète, on en a besoin.
Ils en bavent.
Mais oui, mais on en a besoin. Qu'est-ce que serait la Bible sans les prophètes? Qu'est-ce que serait notre société sans
Absolument.
Les prophètes? Seulement, il faut qu'ils apprennent un petit peu à prendre des distances avec ce rôle qu'ils ont. Et je pense qu'on ne peut pas demander à un enfant d'être à l'aise complètement en tant qu'hypersensible.
Ouais, bien
c'est,
d'accord.
C'est toute une progression. Comme il a été dit, ça demande un gros investissement des parents. Mais il faut lui dire, tu peux y arriver. Et tu peux être vraiment ce petit zeste ou ce petit, je ne sais pas moi, le sel de la terre.
Ouais.
Mais ce n'est pas une vocation facile à accepter.
Ouais.
Si je peux me permettre, moi je pense même que ce sont les cerveaux du futur. Je pense qu'on est en train de quitter justement comme l'homo sapiens a pu évoluer intellectuellement. Je pense que la personne issue de la neurodiversité est le cerveau du futur. J'écris justement un livre là-dessus, enfin en tout cas je traite du sujet.
Comment ça se manifesterait?
Quelque chose de... On a une perception du monde qui est tellement différente justement, je suis même certaine qu'elle est faite pour cette évolution humaine en fait, intellectuelle en tout cas. Et c'est pour ça que je dis que c'est un cerveau du futur, parce que je pense que c'est ce qui nous permettra justement d'appréhender le monde dans le futur. Mais quand je dis le futur, ça
Comme disait Géraldine tout à l'heure, on est un peu désincarné, enfin découpé, on est hypo, disait-elle, hypo émotif, hypo sensible.
On hyper existe et effectivement on doit apprendre à vivre dans cette société qui ne nous ressemble pas. Mais
robotique quoi, d'une certaine façon.
Exactement, on est automatisé, on nous conditionne, comme je vous disais tout à l'heure.
C'est ce que vous disiez hors antenne.
Voilà, c'est ça, on est conditionné dans un monde qui ne nous ressemble pas et on doit apprendre à vivre avec ce monde et toujours essayer de passer d'une émotion à une autre, c'est pas nous, parce qu'on nous apprend à être une autre personne, et du coup on doit vraiment intérioriser pour aller chercher la personne que l'on est.
Géraldine, qu'est-ce que vous répondriez à l'histoire du couple dont je parlais tout à l'heure, à l'instant, une réaction de Géraldine Prévost-Gigant, peut-être un conseil à donner à des couples qui souffrent, enfin au sens individuel et collectif, cette hypersensibilité. C'est vrai que c'est pas simple quand on reste sur quelque chose et qu'on ressent surtout quelque chose de façon extrêmement violente. Comme une trahison, comme des petits détails de la vie, on se sent nié par l'autre, on se sent alors que peut-être qu'on grossit un petit peu la chose. Je ne sais pas. Géraldine ?
Allô ?
Oui.
Allô ?
Oui, c'est bon.
Je pense. Je voudrais juste faire un bouclet avec ce qui vient d'être dit, mais je n'oublie pas votre question, Marie-Ange. C'est tout mon propos par rapport aux hypersensibles spirituels que j'ai écrit en 2021. C'est ce que je dis. Je dis que les hypersensibles sont les avant-gardistes du nouveau monde. Nous sommes les hypersensibles, ce qui est annonciateur de la civilisation de demain. Nous sommes en pleine crise de transformation, mais je pense que cette hyper-humanité, elle est en train d'émerger au travers des hypersensibles. Mmh. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et très touchée d'ailleurs d'entendre ceci et ravie en même temps.
Mmh.
Et pour répondre à votre question par rapport aux hypersensibles dans le couple, il ne faut pas confondre hypersensibilité et une hypersusceptibilité.
Ah, d'accord.
Et oui.
Pour moi, c'était la même chose.
Non, en fait, c'est tout à fait juste ce qui a été dit concernant le fait que les hypersensibles, et on fait aussi un pont avec les hauts potentiels, captent des informations subtiles, ont une perspicacité, un œil, une oreille et un sensitif aiguisé qui leur fait mettre le doigt sur certaines choses, certaines disharmonies, certains dysfonctionnements. Et c'est pour ça que ça peut être parfois un petit peu inconfortable, parce qu'ils ont toujours un temps d'avance. Et dans la relation de couple, c'est ce qui peut arriver. Et alors, dans ces cas-là, ce qui est important et intéressant, c'est quand l'hypersensible découvre qu'il ou elle est hypersensible, se familiarise avec ceci, commence à s'appréhender lui-même ou elle-même d'une façon différente, à s'accueillir, à approfondir la connaissance de lui-même ou d'elle-même. Et dans ce cas-là, il va y avoir la possibilité de communiquer avec notre partenaire sur notre sensibilité. Notre partenaire va aussi apprendre, peut-être que lui ou elle est hypersensible, hein, ou pas, avec peut-être une différence de sensibilité, et comment ensemble on va pouvoir co-créer la suite de notre relation en intégrant cette dimension-là. Mais l'important, c'est déjà soi-même d'intégrer cette dimension d'hypersensibilité comme une actualité, comme quelque chose vraiment qui est là, qui fait partie de notre personnalité.
Parce que c'est vrai que ça devient... Oui, pardon, parce que c'est vrai que, Géraldine, je vous coupe un tout petit peu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se targue, on se justifie en disant « Non, non, mais attends, moi, tu peux pas me dire ça, je suis hypersensible. » Et c'est vrai que c'est un peu, malheureusement... malheureusement, ça dessert en fait, du coup, les choses cachées, les belles pépites qui sont contenues dans l'hypersensibilité, quoi. C'est un peu dommage, Charlotte.
Oui, il faut vraiment pas l'utiliser comme prétexte pour se dédouaner de quoi que ce soit. Et à la fois, il ne faut pas douter une seule seconde de ce que l'on ressent. On ne peut pas l'utiliser pour avoir des injonctions envers les autres. Aussi, c'est important, parce que ça ne doit pas être un prétexte pour avoir des exigences, pour avoir... on doit soi-même savoir ce dont on a besoin, connaître ses propres besoins, c'est fondamental, ce qu'on a besoin pour être bien, à la fois au niveau vestimentaire, pour avoir chaud, sa propre boisson, pour avoir son confort qui fait qu'on va être bien, mais on ne peut pas imposer de l'autre, d'une certaine manière, qu'il satisfasse nos propres besoins.
Ce que vous êtes en train de nous dire, de toute façon, on revient à ce que vous disiez dans la première partie de l'émission, c'est qu'il faut en faire un atout. Et à ce moment-là, on quitte la robe de la victime que tout le monde agresse, finalement. C'est pour ça que c'est intéressant d'échanger autour de cette thématique.
Ouais. Exactement, c'est déjà un atout. Et on doit se débarrasser de tout ce qui nous pollue autour, de tous les parasites, etc. Mais, d'une certaine manière, c'est d'assumer cette sensibilité, d'assumer pour que, d'une certaine manière, arrêter de vouloir satisfaire les demandes des autres qui consisterait à ce qu'on soit tel que les autres voudraient qu'on soit. On n'a pas à satisfaire ni à accepter de rentrer. Hein, moi, si je suis, par exemple, entrepreneur depuis que j'ai 21 ans, c'est parce que, d'une certaine manière, je n'ai jamais désiré, d'une certaine manière, rentrer dans le cadre de qui que ce soit. Et que... Je suis une ancienne extravertie, hein, donc je le raconte.
Extravertie.
Je suis une ancienne hypersensible extravertie, je le raconte dans Itinéraire, ouais. D'une ultra-sensible, que quand j'étais à l'école de coiffure vers 15 ans, le professeur râlait parce que je dessinais et que je chantonnais. Alors il me disait, mademoiselle Claissen, vous allez monter sur la chaise pour chantonner plus fort. Alors moi, je lui dis... non, vous savez, je suis très petite, alors la chaise, c'est trop bas. Je vais monter sur la table.
Vous avez fait, du coup.
Oui, alors je suis montée sur la table, j'ai repris ma chanson. Et après, il me dit, c'est bon, maintenant, vous pouvez descendre. J'ai dit, non, maintenant, vous allez m'écouter jusqu'au bout. Voilà, et c'est aussi dans Itinéraire, effectivement, d'une ultra-sensible, dans la conclusion que je dis que les hypersensibles sont les êtres de demain. Parce que, effectivement, sont les êtres hypersensibles de demain. Et déjà... Nos jeunes d'aujourd'hui sont en partie, à 50%, sont déjà des êtres hypersensibles.
Il me semble. Hein.
Toute cette nouvelle génération qui ne se laisse pas faire, qui sont sensibles, qui ouvrent des centres de coworking, qui ont cette sensibilité de l'écologie. Il y a déjà une grande partie
de la nouvelle génération.
Une sensibilité, hein,
qui ont cette sensibilité-là.
C'est intéressant, parce que là, pour le coup, c'est juste... le terme existe, de être sensible à telle ou telle cause, etc., etc., au sens, enfin... C'est vrai que vous avez raison, mais alors, pas tous, hein, évidemment, mais il y a une tendance, en tout cas, une espèce de résistance à la norme, à la normose, comme disent certains.
Oui.
Christiane.
J'écoutais l'exemple de l'apprenti coiffeur, là, qui a fait sourire tout le monde, mais c'est une démonstration d'une confiance en soi qui est fantastique.
Ouais.
Et donc, ça nous permet de revenir à nouveau un des plus grands outils qu'on peut proposer aux hypersensibles, c'est de travailler cette confiance en soi.
Ouais.
Et pour travailler cette confiance en soi, il me semble que ces personnes ont besoin d'être aimées et doivent ressentir à quel point elles sont importantes dans le cœur des autres.
Ouais.
Et je reviens au sujet du couple, parce que c'est intéressant, effectivement, de faire la différence entre l'hypersensible et le susceptible. Mais il y a une chose qui les rejoint, c'est quand ils deviennent insupportables aux autres, c'est leur absence d'amour. Parce que quand vous avez une personne dans un couple qui est assoiffée d'amour, et vous avez beau essayer de lui transmettre cet amour, vous avez l'impression que ça tombe comme dans du sable. C'est extrêmement difficile pour l'autre de vivre avec cette personne qu'il n'arrive pas à combler. Donc il y a tout un travail d'abord à faire sur le fait qu'on n'est jamais totalement comblé par l'autre et qu'il y a une certaine distance qu'il faut instaurer. Mais aussi, ça sort un peu de la compétence de la conseillère conjugale, je pense que c'est plutôt la psychologue qui doit essayer de comprendre pourquoi on se retrouve avec des personnes qui ont l'impression qu'elles n'ont jamais été aimées. Et c'est un boulet épouvantable.
Ouais,
donc l'hypersensible qui a été aimé, à mon avis, peut être bien armé dans la vie, parce que derrière lui, il sait qu'il y a tout un team là, qui l'a aidé, et qu'il n'y a pas de raison que ça continue.
Ouais. Géraldine Prévost-Gigant, pour terminer, est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ce qu'a évoqué Christiane, alors, le côté prophétique, vous l'avez dit. Mais pour finir, finalement, c'est un véritable atout d'être hypersensible, mais à condition de le vouloir et de le construire, cet hypersensible positif.
Et de ne pas mettre dans la boîte hypersensibilité toutes nos blessures. En effet, je rejoins ce qui a été dit. Si nous sommes dépendants affectifs parce que nous avons une blessure d'abandon, une blessure de rejet, que nous n'avons pas eu l'amour que nous aurions dû avoir enfant...
À travailler, quoi.
Notre hypersensibilité vient de ces blessures non guéries. Donc, un hypersensible va faire de son hypersensibilité un atout quand il aura guéri ses blessures, qu'il se sera véritablement rencontré et qu'il osera laisser rayonner son hypersensibilité au...
Merci Géraldine Prévost-Gigant. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Merci mesdames, Charlotte Wills, Géraldine Prévost-Gigant, Christelle Béchouge et Christiane Deagel. Merci mesdames et bonne soirée.
Merci
à tous. À tous les petits hypersensibles qui nous écoutent.